Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec moi aussi, je pense donc je suis d'Élodie Pinel. Où sont les femmes autrices? Cette question s'est posée à moi à la fin de mes études de lettres. Je n'y ai pas répondu, mais j'ai vu entrer en littérature nombre d'autrices oubliées et effacées, dont Olympe de Gouges, grande philosophe de l'égalité homme-femme et de la citoyenneté. Élodie Pinel, dans son essai « Moi aussi, je pense, donc je suis », affirme que les femmes philosophes existent depuis la naissance de la philosophie et que leur histoire a été effacée. Elle rappelle aussi que la pensée appartient aussi aux femmes. Alors, bonjour Élodie Pinel, donc vous avez écrit cette fois seule. Moi aussi je pense donc je suis, quand les femmes réinventent la philosophie, vous partez de l'idée que les femmes sont philosophes dès le départ, même alors qu'il semblerait qu'il n'y en ait pas. C'est bien ça ?
C'est ça, c'est un peu l'effet d'optique dont on subit les conséquences quand on fait des études de philosophie, quand on enseigne la philosophie, c'est qu'on cherche les femmes, on en trouve peu, et on en déduit qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'ont pas existé. Et quand on cherche un peu, on en trouve. Et donc là, on se dit, mais d'où vient le problème? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas étudiées? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas présentes dans les manuels? Et puis dans les cursus universitaires. Donc moi, à titre personnel, quand j'ai commencé par de la philosophie, je suis d'abord diplômée en philosophie, c'est ma vocation première, et j'ai entendu parler d'une femme lors de mon cursus de philosophie, qui était Elisabeth Anscombe. J'ai eu la chance d'avoir eu des cours d'ailleurs de son traducteur en français, mais je n'avais même pas réalisé qu'on ne m'avait pas parlé d'autres femmes que d'Elisabeth Anscombe. On n'était pas beaucoup de filles non plus lors de ces... Ça s'amenuisait au fur et à mesure des années. Hein. Donc on est de moins en moins de filles. Et c'était un point aveugle, en fait. Une espèce d'angle mort. Dont j'ai vraiment pris conscience quand j'ai enseigné à plein temps la philosophie, et étant déjà féministe depuis longtemps et menant cette, on va dire ce combat quand même, hein, au niveau de la représentation des autrices en littérature. J'ai voulu transposer le même geste et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire quand même. Et j'étais étonnée de l'écart entre les avancées quand même en littérature, même s'il y a encore énormément de choses à revendiquer, à mettre en place, et le désert en philosophie. Et qui avait d'autant moins de sens que les philosophes sont censés être des gens éclairés, qui combattent les préjugés. Et donc là encore, ça m'a vraiment posé question et problème. Et je suis en plus médiéviste, donc je suis habituée à des zones de l'histoire un peu moins courues, où on a l'habitude de retrouver des gens, parce que comme c'est pas très visible, de toute façon, on ouvre un manuscrit, on va dans une archive, et puis hop, ah bah oui, il y a un tel dont personne ne m'a jamais parlé, mais c'est normal, parce qu'en fait, on est trois à savoir qu'il existe dans le monde. Voilà, c'était pas quelque chose qui me rebutait, en fait. Hein. Et puis, je me suis rendu compte que oui, il y avait déjà des gens qui s'étaient posé cette question, et que ça faisait longtemps, et que l'histoire bégayait, en fait. C'est-à-dire que Christine de Pizan avec La Cité des Dames, c'est au XVe siècle, elle commence déjà à essayer de valoriser des figures de femmes en général, dont des femmes philosophes ou des femmes intellectuelles. Puis après, on a Marie de Gournay au XVIIe, Gilles Ménage quelques années après Marie de Gournay, qui fait carrément une histoire des femmes philosophes. On est au XXIe siècle, on est censé avoir progressé. Bon, là, j'ai vu que l'histoire de la philo était peut-être pas une histoire si progressiste que ça. Je me suis rendu compte que dès l'Antiquité, ne serait-ce que Diotime, la maître à penser ou maîtresse à penser de Socrate, c'est une femme. Et que beaucoup, beaucoup de traducteurs, de spécialistes de Platon avaient tendance dans leurs avant-propos aux traductions du Banquet à minimiser cette figure, à mettre en question même son existence, à dire « Oh, c'est sans doute une fiction que Platon met en place. » On ne voit pas pourquoi, hein, mais bon, voilà. Et souvent, pendant des années et des années, les traducteurs, les éditeurs critiques de ces textes mettaient en avant que ce qui était le plus probable, c'est qu'il n'ait pas existé. C'est tout récemment, c'était Luc Brisson, dans son avant-propos, qui quand même assumait la possibilité de cette existence et s'interrogeait vraiment sur qui aurait pu être cette diotime. Est-ce que c'était une prêtresse? Est-ce que c'était elle avait une autre fonction dans la cité? Peut-être aussi parce qu'on a avancé sur l'histoire des femmes en général et qu'on est sorti de la caricature de la femme de tout temps a été reléguée au foyer et qu'elle n'a trouvé une place dans la société que tout récemment. Voilà, ça, c'est une espèce de mythe aussi que peut-être on arrive un peu mieux à battre en brèche aujourd'hui et qui nous ouvre des perspectives dans tous les domaines en fait. Donc oui, et à force de gratter, on en trouve, et on en trouve plein. Alors elles n'ont pas toujours pu transmettre leurs ouvrages, parce que parfois ça s'est perdu entre-temps, mais on a au moins une attestation de leur activité philosophique, surtout là je pense aux philosophes de l'Antiquité. Donc on sait par des témoins de l'époque qu'elles ont d'une part existé, qu'elles ont suivi telle ou telle école, Platon, Épicure, Aristote, etc., et qu'elles ont elles-mêmes parfois enseigné, parfois été... des conseillères, soit politiques, soit philosophiques, et puis qu'elles ont souvent écrit des textes aussi.
Oui, c'est ça. Elles ont aussi écrit. Alors, le titre, moi, je le trouve super intéressant. Le « moi aussi, je pense, donc je suis », parce que ça dit bien le problème qu'il y a avec la philosophie et les femmes, c'est que, au fond, et c'est le problème de base, elles ne sont pas pensées comme des hommes comme les autres. Et donc comme des êtres qui pourraient penser.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a une illusion du neutre, du masculin neutre. C'est-à-dire que c'est pas du tout neutre, le masculin, en fait. Et ça ne peut être une illusion que pour les hommes eux-mêmes, en fait. Parce que nous, on s'en rend compte que c'est... Au bout d'un moment, on finit par s'en rendre compte. On ne s'en rend pas toujours compte dès le départ. D'ailleurs, c'est ce que disent Vinciane Després et Isabelle Stengers dans un ouvrage qui s'appelle « Les faiseuses d'histoire », dans le sens où elles... On les a accusés de faire des histoires, c'est-à-dire d'être embêtantes, quoi, en disant qu'au début de leur carrière philosophique, elles sont toutes les deux professeurs d'université, hein, elles ne se rendaient pas compte qu'il y avait un problème. Elles ont eu l'impression qu'elles pouvaient faire leurs études de philosophie à égalité avec les hommes et que ça n'allait pas poser de difficultés dans le déroulement de leur carrière. Et il y a eu un point de rupture où elles se sont dit « mais oui, en fait, si, je n'ai pas le, mon œuvre n'a pas la même... répercussions, on ne m'accorde pas la même autorité, et je plafonne en fait, et je suis entourée d'hommes en permanence, je suis toujours minoritaire, et donc forcément que ça a un effet sur la manière dont on se construit, sur la manière dont on va orienter des recherches aussi, les choix de ces sujets. Donc c'est un peu ce que c'est aussi ce que j'étudie dans certains chapitres, c'est-à-dire quelles sont les stratégies qu'ils ont pu développer pour penser quand même, trouver une place. Souvent en ayant cherché plutôt une safe place, comme on dit, par rapport aux violences, à savoir une place sécurisée, sécurisante, où on ne va pas être attaqué parce qu'on ne va pas être mis en rivalité avec des hommes qui vont être parfois très territoriaux. Et donc un certain nombre de femmes vont se réfugier vers des formes de textes moins nobles, parce que moins en compétition avec des hommes qui avaient une stature, une place dans la société, une reconnaissance auxquelles elles ne pouvaient pas prétendre. Donc la forme du dialogue, la forme de l'allégorie, de la correspondance, sont des espaces où elles peuvent prendre la parole, alors que le système, le traité... Alors, ne parlons même pas de traité scolastique, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de femme scolastique. Je parle un peu de Marguerite Porrette, mais parce qu'elle s'inspire de la scolastique pour la dépasser et pour, de manière assez subversive d'ailleurs, essayer de la réduire à néant. Mais sinon, la plupart des femmes évitent ces endroits-là et essayent de se construire une identité philosophique à part, soit entre elles, soit en discussion, en dialogue avec un philosophe, une espèce d'initiateur comme ça. Mais elle ne peut pas se permettre de construire leur propre identité de penseuse, en fait. Et c'est en effet un impensé qui, pour moi, a pu être levé parce que ça a été l'aboutissement d'une prise de conscience générale, et pas strictement sur la philosophie, en fait. Donc, et je pense que cette prise de conscience, elle est de plus en plus courante et facile chez les femmes. En général, et les femmes qui font de la philosophie en particulier, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de collègues féminines, profs de philo, dans le secondaire et le supérieur. En revanche, j'ai un appel à tous ces messieurs, j'attends les retours des hommes. j'ai quasiment pas de retour d'homme de cette lecture. Donc, ça m'interroge quand même en profondeur sur l'immobilité, en fait, hein, du monde philosophique, derrière des déclarations de bonnes intentions et une volonté d'être inclusif. J'ai l'impression que ça reste un peu lettre morte, pour l'instant, au niveau de... autant du monde intellectuel que du monde universitaire, philosophique, français.
Alors que, enfin, moi, j'ai découvert plein d'autrices que je vais lire. ça donne énormément envie de découvrir. Et puis des pensées dont je n'imaginais pas l'existence. Et donc, c'est à la fois un ouvrage de réflexion, aussi assez personnel, hein, par rapport à votre propre parcours, où vous dites ben, j'ai abandonné la philosophie, j'y reviens. Parce que oui, mais je pense que le rapport qu'on a, les femmes, hein, avec la littérature, c'est que c'est l'endroit où on nous laisse aller, parce que finalement... peut-être que c'est le mot penser, hein, c'est ce que vous disiez, le mot penser, il n'y est pas, quoi. C'est pas grave. La littérature, c'est pas grave. Alors que la philosophie, c'est grave et c'est sérieux. Donc ça ne peut pas être une affaire de femmes, surtout si ces femmes écrivent en employant des biais littéraires. Donc dans ce cas-là, elles se disqualifient. Enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant ce que vous racontez là-dessus, sur la manière dont, aujourd'hui même, mais on pourrait presque le prendre comme un manuel, quoi, pour pouvoir essayer de découvrir, parce qu'il y a des fiches, hein, sur ces femmes et sur ce qu'elles ont écrit, en disant, mais on pourrait vraiment aller plus loin aussi, hein, par exemple sur Olympe de Gouges, qui est au programme en lettres, et qui a posé problème aussi en étant au programme en lettres. Moi, j'ai entendu quand même dire, mais c'est pas de la littérature, hein. de toute façon, je ne sais pas très bien ce que c'est que la littérature personnellement, hein, mais
je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sait ce que c'est. C'est un mot en plus assez récent dans l'histoire, hein, qui n'est pas utilisé ni en l'Antiquité ni au Moyen-Âge. Donc, qu'est-ce qui fait littérature? Qu'est-ce que recouvre ce terme? Enfin, et c'est la même chose pour la philosophie. Où ça s'arrête, où ça commence, où ça s'arrête. Moi, je suis favorable à une définition ouverte de la philosophie. C'est ce que j'essaie de défendre à la fin. Et aussi un enseignement ouvert de la philosophie. Donc, plutôt qu'en permanence exclure et limiter le terme de philosophe à des gens qui auraient un cursus très très précis, très excluant justement, où il faudrait faire à la fois être évidemment agrégé de philo, parce que si on est juste certifié, ça parle seulement en France, hein, ça, hein, donc c'est quand même très franco-français, mais ça serait pas bien. Il faudrait être nécessairement évidemment docteur ou doctoreux en philosophie, plus docteur d'ailleurs. Il faudrait publier des essais dans des grandes maisons, parce que si vous publiez chez les petites maisons, c'est pas bien. Et puis, il ne faut pas se commettre avec le peuple. Il ne faut pas rendre son discours trop accessible. Il faut garder un certain jargon technique. Il faut, comme disait Deleuze, produire du concept. Donc, c'est une espèce de réduction de la philosophie à une certaine orientation qui est complètement castratrice et sclérosante, en fait. Et donc, ça invalide toute une manière de se rapporter à la pensée en termes de morale, en termes même de politique, en termes de rapport humain. Et puis, on peut dire aussi que ça disqualifie de plus en plus aujourd'hui la réflexion sur le sacré, sur le divin, sur le spirituel. Enfin, il y a plein de champs qui sont de plus en plus exclus de la philosophie canonique, universitaire, alors qu'il n'y a pas de raison. C'est pas rationnel, ce choix-là.
Et même quand c'est des philosophes qui ont écrit comme des hommes, je pense à Simone Veil, que j'ai découvert seulement cette année, vraiment. Moi, je ne l'avais pas lu, par exemple, parce que j'avais entendu le mot « folle » sur elle. Et je découvre l'inverse de la folie. Je découvre un projet de société qui n'a pas encore eu lieu, qui est un projet de coopération, par exemple, en la lisant. Une réflexion sur la force à partir de l'étude de l'Iliade, incroyable. Et je me dis, elle dépasse Marx, et on l'a laissé tomber ça. Parce que Marx, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, elle dit, Marx propose un système de domination à l'envers, enfin le même, quoi. Ce qu'il veut, c'est la dictature du prolétariat, ça dit bien ce que ça dit, hein. Il n'y a pas besoin de philosopher pendant longtemps pour dire, en fait, il veut une autre domination, remplacer une domination par une autre. Et elle dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Elle l'écrit très clairement, mais en même temps avec un discours un peu jargonneux quand même. Donc elle l'obéit. Enfin, moi je suis ahurie. Elle a obéi. Elle l'a à l'écriture philosophique. C'est quand même pas simple à lire. Elle coche toutes les cases. Et elle a fait des choses que d'autres hommes ont fait après, aller voir ce qui se passe dans le milieu ouvrier, etc., dont on a dit que c'était génial. Et elle fait ça, on dit elle est folle.
Oui, parce qu'il y a une disqualification par principe des femmes. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces conditions limitantes. Et on s'est arrangé pendant très longtemps pour que les femmes ne puissent pas correspondre à ces conditions, puisque ça fait seulement 100 ans, par exemple, que les femmes, enfin les jeunes filles, étudient la philosophie au lycée. Donc en 1880, il y a la loi Camissé qui ouvre le lycée aux jeunes filles, mais pas la philosophie. Voilà. Et les débats parlementaires, c'est on ne va quand même pas permettre aux femmes d'avoir un esprit critique, parce qu'elles risquent de contester l'autorité du mari. On est encore dans l'autorité parentale qui est exclusivement paternelle. Elles n'ont toujours pas le droit de travailler sans l'accord du mari ou du père, ni le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord du mari ou du père. Il faudra attendre des années 60 quand même. Hein. Donc c'est seulement en 1924 qu'on ouvre la philosophie aux jeunes filles, et donc toutes celles, notamment Léotine Zanta, dont parle Annabelle Bonnet dans sa thèse, qui ont été jusqu'au doctorat en philosophie, ne peuvent pas enseigner ensuite la philosophie. C'est quand même aberrant. C'est non dans des cours privés, alors maintenant on dirait hors contrat, mais à l'époque c'était juste des cours du soir en fait privés. Bien sûr, ça, c'est une des pertes humaines, et au-delà des pertes humaines, parce que ça engendre une frustration, un gâchis en fait, hein, mais aussi des pertes pour l'histoire de l'intellect et de la pensée. Quoi. C'est des gens qui étaient de valeur, qui pouvaient produire des choses intéressantes. Alors soit on a complètement invisibilisé et silencié leur œuvre, soit on a même fait en sorte de les saboter. C'est pour ça qu'à la fin je finis sur le continuum des violences faites aux femmes et aux femmes philosophes, de voir que depuis le fait de juste ne pas les éditer ou ne pas relayer leur œuvre ou discréditer leur travail ou ensuite les persécuter, il y a des femmes qui, parce qu'elles étaient prétendaient à être philosophes, ont été accusées de plagiat, n'ont pas eu de poste. Je pense à Edith Stein n'a jamais eu de poste parce qu'elle était une femme. C'est quand même Einstein, quoi. Il y a un moment. Après, on relativise ses propres frustrations quand on a des histoires comme ça. Et jusqu'à oui, la mise à mort, Olympe de Gouges ou Marguerite Porret, quoi. Donc tout ça, c'est la même logique. C'est juste un crescendo. Évidemment, une étape ne conduit pas nécessairement à l'autre. Et puis c'est sur toute l'histoire de la philosophie en général. Mais on voit que ça participe de la même volonté de dominer et surtout de museler. Des femmes qui pourraient justement mettre en péril la domination masculine parce qu'elles ont l'outil intellectuel pour le faire et que du coup elles sont perçues comme des menaces, et elles le sont, ouais, elles le sont, et des fois elles l'ont été de manière volontaire. On voit l'âme de Gouges et Marguerite Porret, clairement elles ont mis en difficulté le système patriarcal de leur temps de manière frontale et de manière peut-être pas agressive, parce que ça n'a jamais été martial, ça n'a jamais été armé, hein, ni même politique quelque part, parce que même si Olympe de Gouges a produit des textes politiques, c'est pas pour ça qu'elle a créé des factions ou mobilisé derrière elle. Peut-être Flora Tristan l'aura un petit peu plus fait, mais elle, c'est au nom du mouvement ouvrier en général, c'est pas vraiment au nom du mouvement purement féministe. Donc en fait, il y a cette volonté en fait de laisser les femmes à leur place et de leur refuser l'intelligence. Parce que pourquoi est-ce qu'on se pose cette question en fait de est-ce qu'il y a des femmes philosophes ? Le sous-entendu, c'est est-ce que les femmes sont assez intelligentes pour être philosophes ? En fait, on en est juste là. C'est quand même terrible. Donc, est-ce qu'il faut qu'on prouve en permanence qu'on n'est pas si bête ? C'est quand même impressionnant. Moi, j'ai mis un point d'honneur à un moment à parler de Schopenhauer et à la vie de Schopenhauer et sa misogynie. Juste après le portrait d'Edith Stein, justement, et de Thérèse Davila. Pour qu'on essaie de comparer un peu et de réévaluer peut-être ceux qu'on porte au nu, les idoles qu'on s'est choisies, pour dire ce qu'il n'y avait pas plus admirable dans l'histoire de la pensée et même l'histoire de l'humanité que ce genre de figure que sont Schopenhauer, qui quand même nous insulte, nous femmes, à longueur de page. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, il nous insulte quand même. Hein. Et il ne faut jamais rien dire. On remplacerait femme par n'importe quel autre terme, on trouverait ça horrible. Et on n'accepterait pas, et on se demanderait, faut-il encore lire Schopenhauer ? Mais là, c'est des femmes, donc c'est bon, on peut y aller. là, il y a vraiment quelque chose de problématique, quoi. Moi, je...
ouais, c'est bon, on peut y aller. Et puis, on ne pensait pas comme... Enfin, c'est un autre temps, c'est le contexte. Il faut remettre les choses dans leur contexte.
Sauf qu'à ça, quand même, on se rend compte qu'à n'importe quelle époque, il y a toujours des gens assez éclairés, même parmi ces messieurs, pour ne pas tomber dans le panneau de la misogynie, en fait. Hein, au 18e, Condorcet qui défend l'éducation des filles.
Et qui est fréquenté à Olympe de Gouges, j'ai découvert ça.
Oui, ouais, qui faisait partie des mêmes cercles intellectuels. Donc on trouvera toujours des hommes à côté de ces femmes. Mais c'est pareil, ces hommes-là, on ne va pas les mettre en avant non plus trop. Et puis surtout, puis on ne va pas en dire qu'ils ont défendu des femmes. Gilles Ménage, son histoire des femmes philosophes, on n'en parle pas, c'était un proche des précieuses, on ne va pas en parler. Donc, ouais, y a ces figures masculines qui pourraient permettre aux femmes de trouver une légitimité, sans doute, qui les ont protégées à leur époque, qui leur ont permis d'accéder à des choses auxquelles elles n'avaient pas accès ou d'être relativement protégées et entendues, mais qui, en fait, une fois qu'ils ne sont plus là, elles sont exposées. Et puis, eux-mêmes ne sont finalement pas tant en odeur de sainteté que ça et n'ont pas un tel écho. Parfois, ils ont un peu une attitude ambivalente aussi. Quand on voit Voltaire par rapport à Madame du Châtelet, bon, en plus, ils étaient en relation amoureuse un peu bizarre, pas toujours très saine. Héloïse Abélard, c'est la même chose. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Héloïse Abélard. Elle cite Cicéron, elle a les références d'un philosophe, hein, et d'une philosophe, Héloïse. C'est elle qui écrit les règles de l'ordre religieux qu'ils fondent à deux. Mais c'est lui le philosophe, parce que dans la société, c'est lui qui peut être reconnu comme tel. Donc oui, il y a une vraie question, et qui dérange finalement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'en disant ces choses-là, en disant les femmes ont toujours existé, les femmes philosophes ont toujours existé, et pourquoi, messieurs, vous l'avez nié, vous le niez encore, vous n'en prenez pas compte, et j'ai envie de dire aussi, pourquoi est-ce que vous êtes victime de ce préjugé et pourquoi est-ce qu'on dit c'est le contexte, et donc ça veut dire que les hommes philosophes, supposément plus sages, plus éclairés, sont victimes du contexte ? Moi, ça me pose question quand même. Comment je peux encore continuer à lire Kant ou Descartes si je sais qu'ils n'ont pas compris que la femme était leur égale ? Bon, Descartes un peu plus que Kant, mais voilà, ça jette un discrédit en fait en rétroaction, j'ai envie de dire, sur ces grandes figures. Là encore, on retombe, comme on disait sur l'autre interview, sur la sacralité des figures du penseur et du philosophe, qui, du coup, ferait autorité quoi qu'il dise.
Ah oui, parce que ça veut dire aussi que Descartes pense que les femmes ne sont pas.
Oui, bah oui, c'est ça la question. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur les cartésiens, c'est Poulain de la Barre, qui était un cartésien, qui se revendiquait du cartésianisme et qui a prolongé le geste de Descartes de dire « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », en disant « oui, bah donc les femmes aussi ». Et qui a écrit tout un ouvrage qui a été réédité chez Vrin il y a une dizaine d'années pour prendre la défense des femmes de manière rationnelle, donc, et en se réclamant de Descartes. Et il a été vilipendé et il a dû finir par se rétracter et publier la suite de manière anonyme, alors que c'était un homme, donc a priori il était un peu moins exposé que si ça avait été une femme qui l'avait écrit, mais ça a été très violent. Ouais.
Et il a fait partie aussi des gens invisibilisés, enfin, c'est pas celui qu'on étudie en terminale. Hein.
Oui, je vous dis, c'est dans les années 2010 qu'on a pu le... Enfin, un peu avant, peut-être 2008, mais qu'on a pu le rééditer.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup.
Bah merci à vous.
Lecture du début de la conclusion générale. La femme est l'avenir du philosophe. La place des femmes en philosophie n'a jamais été acquise. De tout temps, notre civilisation occidentale et patriarcale a exclu les femmes des sphères de savoir et de pouvoir. L'histoire des femmes est celle d'une lutte sans cesse continuée et recommencée pour la reconnaissance et l'émancipation. La moindre crise vient tout remettre en question. Aujourd'hui, en France, femmes comme hommes peuvent s'inscrire en études de philosophie. Femmes comme hommes sont reçues au concours d'enseignement de cette discipline. Femmes comme hommes publient des ouvrages majeurs pour penser notre monde. Nous revenons de loin. Seul problème, les ouvrages des femmes du passé reçoivent toujours moins d'écho que ceux de leurs confrères masculins. Les programmes scolaires ne promeuvent pas leur lecture et ne permettent pas d'aborder la pensée des rares femmes caution autorisées. Les manuels scolaires et parascolaires les boudent. Lorsqu'on souhaite les faire étudier, on peine à trouver des éditions accessibles à tous, des ressources de vulgarisation, des textes en ligne. Mais quelque chose est en train de changer. J'espère que cette rencontre avec Élodie Pinel vous donnera l'envie de lire et d'affirmer « Moi aussi, je pense, donc je suis ».